Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, il est 19h en temps universel. Le régime militaire au pouvoir au Niger interdit son espace aérien aux avions français, selon un message aux navigants aériens sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA. L'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux et nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, précise ce texte daté de samedi soir. L'avion qui s'est écrasé samedi lors d'un atterrissage à Gao dans le nord du Mali appartenait à l'armée malienne et transportait notamment des militaires du groupe paramilitaire russe Wagner. D'après des sources militaires et des secours cités par l'AFP, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais le bilan humain et matériel serait lourd, ont affirmé une source aéroportuaire et diplomatique, sans s'avancer plus sur le nombre de victimes. Le bilan de l'attentat suicide au camion bourré d'explosifs samedi dans le centre de la Somalie s'est alourdi à 21 morts après la découverte de nouveaux corps dans les décombres du bâtiment soufflé par l'explosion, a indiqué ce dimanche la police. Au moins 45 personnes ont en outre été blessées dans cette attaque qui n'a pas été revendiquée, ayant ciblé un quartier animé abritant des commerces et des immeubles. Cette attaque survient au moment où le gouvernement somalien admet avoir subi plusieurs revers importants dans son offensive contre les islamistes radicaux de Shebab. L'Éthiopie a annoncé samedi avoir entamé une deuxième série de négociations avec l'Égypte et le Soudan au sujet d'un méga barrage controversé construit par Addis Abeba sur le Nil, source de tensions de longue date entre les trois nations. L'Égypte considère le barrage comme une menace existentielle car elle dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. La position du Soudan, actuellement en proie à une guerre civile, a fluctué ces dernières années. Les Nations Unies estiment que l'Égypte pourrait manquer d'eau d'ici 2025 et que certaines régions du Soudan, où le conflit du Darfour était essentiellement lié à l'accès à l'eau, sont de plus en plus vulnérables à la sécheresse en raison du changement climatique. Une sonde de la NASA transportant le plus important échantillon de sol jamais collecté sur une astéroïde a fait dimanche son retour sur Terre, sur un vaste terrain militaire du désert de l'Utah, pour livrer sa précieuse cargaison aux scientifiques. Lancé en septembre 2016, l'engin spécial OSIRIS-REx avait atteint Bennu en 2018, passant alors près de 2 ans en orbite de l'astéroïde avant de se rapprocher suffisamment pour collecter un échantillon de sa surface en octobre 2020. Il s'agit seulement du troisième échantillon d'astéroïdes ramené sur Terre et le plus important à ce jour après 2 missions similaires de l'agence spatiale japonaise en 2010 et 2020. Le président américain Joe Biden se rendra demain, du moins ce mardi, dans le Michigan pour manifester son soutien à la grève des salariés de l'industrie automobile. Depuis une semaine, les salariés des 3 constructeurs automobiles historiques, General Motors, Ford et Stellantis, ont débrayé à l'appel d'un syndicat qui demande une augmentation des salaires et une plus grande sécurité de l'emploi alors que le secteur effectue sa transition vers les véhicules électriques. Près de 12 700 travailleurs sont en grève dans 3 usines des Big 3 de l'industrie automobile dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri. Le président américain organise demain et mardi le 2e sommet des États-Unis et du Forum des îles Pacifiques, quasiment un an jour pour jour après la première édition qui avait aussi eu lieu à Washington. L'exécutif américain doit annoncer à cette occasion, selon de hauts responsables, une empreinte diplomatique plus forte des projets d'infrastructure et une coopération maritime renforcée pour lutter en particulier contre la pêche illégale. Et puis un premier groupe de réfugiés fuyant le Nagorno-Karabakh est entré ce dimanche en Arménie, qui a de son côté implicitement reproché à la Russie son manque de soutien dans la foulée de la victoire de l'armée azerbaïdjanaise contre les séparatistes de ce territoire en majorité peuplé d'Arméniens. Les autorités du Nagorno-Karabakh avaient peu avant annoncé que les civils laissés sans logement en raison des dernières violences seraient transférés en Arménie avec l'aide des soldats de maintien de la paix russe présents sur place depuis la précédente guerre en 2020.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et je suis content que tu es intéressé à ce sujet en particulier parce qu'on en voit tellement, il y a beaucoup de qui en parlent.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Joselle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons du concept de la prospérité qui enseigne que la foi en Dieu peut conduire à la réussite financière et à la prospérité matérielle. Selon cette croyance, en donnant de l'argent à l'Église ou aux prédicateurs, les fidèles recevront un retour des bénédictions financières de Dieu. Il s'agit souvent de promouvoir le concept de semailles et de récolte ou donner de l'argent est censé entraîner une multiplication de la richesse. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Je suis en ligne avec Nathalie Nyamoya. Elle est chrétienne et habite au Canada. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir, Eric Manuel Kiza.
L'apôtre Louis Armand Paulin sera également avec nous. Il m'a accordé mardi un entretien sur le sujet car il ne pouvait pas être disponible ce soir en vue de participer en direct. Nathalie, je vais commencer avec vous. Comment vous percevez le concept de semailles et récolte? Pensez-vous que donner de l'argent est censé entraîner une multiplication de la richesse?
Bonsoir à tous. Écoutez, moi personnellement, je pense que le concept de semailles et de récolte ne concerne pas uniquement l'argent. Il concerne en général toute œuvre, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Donc le concept de du semailles et de la récolte, c'est vraiment en rapport avec tout ce que l'on sème. Donc dans le cas des finances, surtout dans les cas des églises, c'est que pour moi, je pense que la semaille, c'est vraiment le lâcher-prise. Des fois, on peut se concentrer sur le fait que une quantité d'argent qui pense nous suffire peut nous aider. Et le fait de lâcher prise, de non pas seulement de donner à l'Église, mais de donner aussi à autrui, parce que la parole de Dieu nous rappelle que un être humain qui a reçu Jésus-Christ aussi a une Église. C'est quelqu'un, on peut bénir quelqu'un. Et dans le temps, la récolte va se manifester à un moment donné. Pour moi, vraiment, cette conception de semaine de récolte, elle est véritablement efficace et aussi dans le mauvais sens du terme. Il y a beaucoup de gens qui commettent le mal et qui le récoltent beaucoup plus tard. Donc ce n'est pas vraiment un concept qui concerne seulement la Bible, mais qui concerne beaucoup de cultures. Alors, mais de là à l'utiliser que c'est quand on donne à une personne de l'Église ou à un prédicateur qu'on va être bien, je ne le pense pas personnellement.
Certains critiques affirment que ce concept de semaille et récolte promeut la recherche du gain financier au détriment des enseignements spirituels. Votre expertise et perspective à ce sujet?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette doctrine de la semaille et de la récolte pour pouvoir s'enrichir personnellement. Et d'ailleurs, Paul en a parlé en disant qu'il y a beaucoup qui utilisent la parole de Dieu à vraiment de mauvais escient. Et puis ils utilisent malheureusement certains passages de la Bible ou certains témoignages de la Bible, comme la vie de Salomon, qui était une personne qui était extrêmement riche, ou Abraham, etc. Ou même quand on lit dans Deutéronome 28, on voit de la richesse. Mais quand on regarde vraiment le Nouveau Testament, on ne fait pas mention ou à l'apologie de la richesse comme telle. D'ailleurs, dans Matthieu, Jésus vraiment nous demande de faire attention à l'amour de l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette doctrine de la semaille et de la récolte pour s'enrichir personnellement, mais ce n'est pas l'idée de ce qui est écrit dans la Bible.
Merci Nathalie. Nous poursuivons notre discussion avec l'apôtre Louis Armand Paulin qui partage d'abord sa perception sur ce concept de semaille et récolte.
Je suis content que tu es intéressé à ce sujet en particulier parce qu'on en voit tellement, il y a beaucoup de leaders religieux qui en parlent. Comment je vois cela? En fait, c'est la Bible en parle. Hein. La Bible, c'est un livre de prospérité. Dieu commence d'abord avec la prospérité, hein, en bénissant Adam et Ève, dès le départ, Dieu ordonnait évidemment que Adam et Ève prospèrent. Le problème que je vois surtout, c'est les gens utilisent la Bible, des versets bibliques en particulier, parce que Dieu promettait qu'il allait bénir toutes les familles de la terre, hein, à travers Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est une grande promesse de Dieu. Donc, cette théologie est basée sur, évidemment, cette promesse de Dieu de bénir les familles. Et cette théologie également est basée sur le principe de la dîme. Donc, vous savez qu'il y a un principe de biblique par rapport à la dîme. Le problème qu'il y a, surtout par rapport à cette théologie, il faut regarder c'est quoi le motif. Les gens qui en parlent, qui utilisent beaucoup cette théologie, la théologie de la prospérité, il faut questionner c'est quoi le motif également, c'est quoi la finalité de cela. Alors, est-ce que c'est quoi ma perception par rapport à ça? C'est biblique, les gens peuvent lire la Bible et appliquer la parole de Dieu. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est au niveau du motif et la finalité de cette théologie.
Certains critiques affirment que ce concept promeut la recherche du gain financier au détriment des enseignements spirituels. Quelle est votre opinion sur cette critique?
C'est légitime, ça revient au motif. Parce que vous savez que nous sommes dans un temps où les gens utilisent n'importe quoi. Hein. Les gens peuvent utiliser Dieu pour arriver à leur fin. Et donc, d'où la question du motif. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Le motif de tout ce qu'un homme de Dieu doit faire, c'est d'abord l'amour. Donc, si c'est un gain financier, donc le motif est mauvais. Donc, les gens qui critiquent cette théologie en raison. Et donc, il faut questionner le motif. Et le motif, on va le voir facilement, parce que si l'Église, souvent, on voit que le leader pousse beaucoup pour ça. Au niveau du message, les sermons sont souvent centrés sur une telle théologie. Et donc là, on peut sentir que le motif n'est pas l'amour. Donc, on voit surtout c'est un motif d'exploiter les gens qui sont vulnérables. Parce que quand on promet un gain, donc c'est normal que ceux qui cherchent, ceux qui sont à la recherche de l'argent, vont toujours essayer de faire un investissement, entre guillemets. Donc le motif n'est pas l'amour. Et donc là, en plein cœur de toutes sortes de choses qu'on en voit dans certaines organisations religieuses.
Nathalie, avez-vous un commentaire sur les explications de l'apôtre Louis Armapolin?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que la motivation est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, quand on voit la vie de Paul par rapport à ça, des fois il dit dans certaines lettres, merci parce que vous avez subvenu à mes besoins, parce que vous m'avez aimé, parce que j'étais dans une situation de faiblesse et que vous étiez même prêt à me donner vos yeux. Donc, certaines personnes pensent qu'il avait des problèmes visuels à cette période-là. Et, mais par contre, dans d'autres lettres, il dit à certaines personnes, non, je n'ai pas envie que vous disiez que vous m'enrichissez. C'est pour ça que même pendant la journée, je travaillais. Donc, le rôle de la motivation est extrêmement important, effectivement. Lorsque la motivation est juste le gain ou le fait, beaucoup de gens ont des problèmes identitaires et veulent se refaire une santé d'abord dans tout ce qui est religieux, où ils ont eu tellement des problèmes dans leur personnalité que l'argent pour eux, c'est un outil qui va leur permettre de gagner des galons. C'est vrai que là, dans ce cas-là, ils utilisent ces paroles, cette parole ou la Bible pour de mauvaises raisons. Par contre, effectivement, lorsque vous faites la promotion de la parole de Dieu par rapport à l'amour que Dieu nous porte, par rapport au fait que Dieu a toujours voulu que ses enfants soient comblés, non seulement d'abord spirituellement parlant. Et beaucoup de gens utilisent d'ailleurs le passage dans le serment sur la montagne des béatitudes où Jésus dit « Heureux les pauvres ». Mais ce sont les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres financièrement. Et d'ailleurs, on voit que même Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles financiers, mais il faisait des miracles dans beaucoup d'autres domaines.
D'après vous, quels sont les défis et les dilemmes éthiques posés par la promotion de la prospérité financière comme une bénédiction divine? Et comment cela peut-il affecter la compréhension de la foi et de la spiritualité?
Alors, les défis sont vraiment nombreux parce que lorsque vous enseignez tout ce qui concerne les bénédictions financières, on a un problème au niveau étymologique. Le mot bénédiction veut dire bénédire en latin, dire du bien. Donc lorsque vous faites la promotion de vous accaparer des choses au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a dit, vous finissez par faire de créer vraiment des problèmes, des défis, parce qu'on a des problèmes identitaires qui se posent dans ce cas-là. Je trouve que beaucoup de gens utilisent cette pseudo-théologie, moi je l'appelle plutôt une doctrine, hein, pour pouvoir se promouvoir eux-mêmes et avancer. Donc vraiment, c'est extrêmement difficile, il faut vraiment faire très attention, parce qu'on aura beaucoup de gens qui auront l'amour de l'argent, qui est quand même un problème qui est à relever, parce que même dans la Bible, on dit qu'il faut faire attention de ne pas aimer le Dieu de l'argent. Il y aura des gens qui vont tomber dans le fait que l'argent va être plutôt un maître au lieu d'être un serviteur. Et comme je l'ai dit, vraiment, il y aura beaucoup de crises d'identité. Les gens vont s'identifier à leurs possessions, vont s'identifier à ce qu'ils font ou ce qu'ils possèdent. Et le jour où ils ne posséderont plus ce qu'ils ont, qui représente des bénéfices financiers apparemment, ils risquent de perdre leur identité. Donc c'est vraiment un gros défi.
J'ai posé la même question à l'apôtre Louis Armand Paulin. Suivez ce qu'il en pense.
Chacun a fait la compréhension de la foi à plusieurs égards. Premièrement, quelqu'un qui est riche va se dire que puisque moi j'ai de l'argent, ce n'est pas la peine d'avoir la foi. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quand il voit qu'on parle uniquement de l'argent dans les organisations religieuses, donc quand on est riche, on va se dire que ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine de chercher Dieu. Alors que fondamentalement, la recherche de la foi, ce n'est pas la recherche de l'argent ou de la prospérité, c'est la recherche de vie. Jésus est venu nous donner la vie, recevoir la vie et la vie abondante. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie. Il y a une différence entre la vie que Dieu donne et l'argent. L'argent est extérieur, la vie est intérieure.
Il y a plusieurs prédicateurs qui mettent souvent l'accent sur la prière et la semence financière, disant que donner de l'argent à l'Église, espérer une récompense matérielle. Quel est votre point de vue là-dessus?
On ne donne pas à l'Église, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. Dieu ne donne pas, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. On donne à Dieu par reconnaissance. Nous prêchons l'obéissance par rapport à ce que nous recevons. Et Dieu, si on regarde dans la Bible, évidemment, il y a un verset en particulier dans Malachie 3 où Dieu parle de bénédiction, Dieu parle de la bénédiction qui vient de la vie, effectivement, mais il n'est pas en train de dire que vous me donnez, vous allez recevoir. Ce que Dieu enseigne, c'est le motif du cœur. Quand on reçoit quelque chose, si quelqu'un travaille, il reçoit sur le salaire qu'il reçoit, c'est Dieu qui est responsable 100% de son salaire. Il peut dire, je vais contribuer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'on donne l'argent, on donne l'argent à l'œuvre de Dieu. Et donc, si on donne pour recevoir, le motif n'est pas bon. Et donc, quelqu'un qui enseigne de donner pour recevoir de l'argent de Dieu n'est pas en train de donner le bon enseignement. Le bon enseignement, c'est de dire qu'on donne pour contribuer à Dieu parce que Dieu nous bénit. Et Dieu en retour, évidemment, Dieu bénit en retour, mais il ne bénit pas parce qu'on donne. Il bénit parce qu'on est obéissant à ce que lui, il dit.
Certains dirigeants religieux prospèrent grâce à cette croyance de semaille et récolte et sont accusés de mener un train de vie extravagant au détriment des fidèles.
Oui, on en voit de plus en plus de ce genre de comportement, je dirais aussi. Mais dès le début, j'ai parlé de la finalité. La finalité d'une théologie, ça doit nous amener à une connaissance de Dieu. Ça doit nous amener à une révélation de Jésus-Christ. C'est ça la finalité. La Bible elle-même, c'est un livre qui est dirigé vers Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même dans Jean 5, verset 39. Il a dit, l'Écriture témoigne de moi. Donc tout ce qu'on lit dans la Bible, la finalité, c'est que nous avons une connaissance de Dieu. Et donc pour ces personnes qui s'enrichissent, la finalité, mais finalement, c'est leur enrichissement. Et donc, c'est très grave ce qu'elles sont en train de faire, parce que si on a une théologie, finalement, la théologie fait en sorte que nous sommes riches au détriment des autres. On est en train de faire une fausse route. Et vous savez que Dieu est le seul juge. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner, mais Dieu est l'argent de certains pour enrichir. La finalité n'est pas la gloire de Dieu, la finalité est finalement la gloire d'une certaine personne, même pas d'une communauté. Moi, je veux.
Nathalie, certains leaders religieux associés au concept de la prospérité ont accumulé des richesses considérables. Comment expliquez-vous cette accumulation de richesses à la lumière des enseignements religieux?
Alors, je dois vous avouer que je ne connais pas personnellement comment certains ont accumulé leurs richesses. Ben, il y a plusieurs cas de figure quand même. Soit ils ont travaillé, et vraiment la parole de Dieu nous invite à travailler. Comme je le disais, Paul, lorsqu'il était dans son ministère, des fois il travaillait la journée, il prêchait le soir. Donc il y en a ceux qui ont travaillé, il y en a ceux qui ont écrit des livres, il y en a ceux qui ont écrit des livres, ont eu de l'argent, plutôt investi dans certains types d'entreprises. Ils ont réussi à avoir de l'argent d'une façon tout à fait honnête et légale. Et c'est quelque chose que je promeux quand même. Il y en a d'autres, c'est vrai, qui ont utilisé la parole de Dieu comme un appât pour pouvoir s'enrichir. Et là, c'est vrai que c'est vraiment dommageable. Il y en a aussi d'autres qui ont travaillé, mais qui ont pu, lorsqu'ils sont devenus assez riches, de façon conséquente, ont eu moins de sagesse dans l'expression de leur richesse. Donc, je me dis qu'il faut faire être extrêmement sage lorsqu'on est un prédicateur, un leader chrétien ou un leader religieux, de pouvoir faire la part des choses, savoir que c'est vrai, lorsque vous êtes béni, c'est bien de pouvoir aider les gens, c'est bien de pouvoir leur dire que leur témoigner de la grâce et de la bonté de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, mais en même temps utiliser de la sagesse, parce que ce n'est pas nécessaire d'être de montrer de façon outrancière les acquisitions qu'on a eues ou qu'on a, de peur de choquer la majorité. Gens qui nous
et dans un contexte où justement où on voit des leaders religieux qui utilisent leur concept pour s'enrichir, comment cela peut-il affecter la compréhension de la foi et de la spiritualité?
Bah oui, ça affecte malheureusement négativement, parce que les gens vont associer le fait que Dieu est avec nous parce que nous sommes riches. Et je suis tout à fait d'accord avec l'apôtre Armand qui vient de mentionner que la motivation est quelque chose d'extrêmement important. Si nous sommes motivés de rechercher Dieu parce qu'il va nous bénir financièrement et quelque part pour nous venger de notre passé de pauvre, alors là on va vouloir montrer aux gens qu'on s'en est sorti grâce à Dieu. Dieu ne va pas régler les comptes comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Donc on aura une image biaisée de ce Dieu-là, et malheureusement, lorsqu'on prie ou qu'on cherche Dieu dans cette dimension-là, on est très frustré financièrement parlant. Donc c'est vrai que ça va nous empêcher de connaître Dieu pleinement. C'est un Père aimant, et au travers de sa parole, il va pourvoir, et l'une des provisions est une provision financière.
Et l'apôtre Armand Paulin parle justement de l'impact sur la vie des croyants et sur la manière dont ils perçoivent leur relation avec Dieu. Je vous invite de le suivre.
L'impact est majeur. L'impact est majeur parce que le focus va être sur la recherche de quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. On va à l'église, on va prier parce qu'on cherche quelque chose. On cherche l'argent. Le focus n'est pas sur Dieu. Parce que le commandement même, quand on demandait à Jésus c'est quoi le plus important commandement, c'est d'aimer Dieu. On cherche Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on veut le connaître. Et donc, les personnes qui vont passer leur temps à chercher de l'argent, la recherche constante de l'argent, elles vont passer complètement tout noir. Elles vont rater complètement le but. Et donc, littéralement, ces gens-là vont perdre leur temps et peut-être leur destinée également, parce que le focus n'est pas Dieu, c'est quelque chose d'autre.
En fin de compte, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux croyants?
Le message que j'aimerais transmettre aux croyants, c'est vraiment une excellente question par rapport à ce sujet. Jésus, si vous lisez dans Jean 10, verset 10, Jésus dit que lui-même, il est venu afin que ses brebis, afin que les croyants aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que les brebis, elles aient la vie en abondance. Donc, ce n'est pas la vie abondante. Personnellement, je l'ai découvert par grâce de Dieu. Parce que moi, j'ai vécu pendant des années dans la pauvreté. Maintenant, je vis dans un pays qui est riche. Donc, je connais les deux versions de la vie de de pauvres et la vie de riches. La vie abondante, ce n'est pas une vie qui est pauvre, ce n'est pas une vie qui est riche, c'est une vie nouvelle. Et donc, moi, le message que peut-être je pourrais transmettre aux croyants, c'est de chercher la vie abondante en Jésus-Christ. Cette vie-là, elle est beaucoup plus puissante qu'une vie de pauvre, qu'une vie de riche. C'est la vie que Jésus donne. C'est la vie que Jésus-Christ a promise à ceux qui le cherchent, à ceux qui l'aiment. Et c'est la vie que moi, je suis en train de vivre. C'est une vie glorieuse. C'est la vie abondante. C'est la vie de l'esprit. Vous savez que la vie de l'esprit est beaucoup plus puissante. C'est la meilleure version de la vie. C'est une vie qui est totalement remplie de la présence de Dieu. On cherche Dieu, on vit dans sa présence. Et c'est ça que le chrétien doit chercher à tous les jours. Moi, j'étais chrétien, je suis né à l'église, je ne connaissais pas cette vie abondante. C'est très tard dans ma vie, je dirais en 2016, que le Seigneur m'a révélé la vie abondante. Et depuis lors, je lis cette vie et je vois la différence. Et donc, c'est ça que je dirais, de chercher cette vie abondante dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, et également en ayant des relations, évidemment, avec des personnes authentiques, des gens qui ont un témoignage puissant de Jésus-Christ, qui peuvent les aider, évidemment, à avoir cette vie abondante.
Apôtre Louis Armapolin, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Merci mon frère, j'espère encore une fois t'entendre plus souvent là, parce que j'aime beaucoup l'émission et je prie vraiment que les personnes qui écoutent l'émission puissent continuer à te supporter, à supporter la radio. Bonne journée mon frère.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Nathalie, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Un message à ceux qui nous écoutent?
Je partais pratiquement dans la même direction que l'apôtre Armand qui vient de parler. Il faut vraiment savoir que lorsque Dieu veut nous combler, il veut nous combler dans tous les domaines de notre vie. D'abord au niveau spirituel, pour qu'on puisse renaître. Au niveau de notre âme, parce que notre âme a souvent été affligée. Et peu importe nos afflictions, l'argent ne peut pas combler notre cœur, notre âme. C'est impossible que les finances puissent venir combler ce dont nous avons réellement besoin. Et bien sûr, il va aussi combler notre vie matérielle, que ce soit physique, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes financiers. Et donc, le focus ne devrait pas être sur ce que Dieu nous donne, mais sur ce que Dieu est. Parce qu'il s'est même défini « je suis ». Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'on comprendra que nous bénissons les autres, nous donnons à des églises, à des personnes, à des gens, parce que nous avons compris que nous avons été bénis, ça va nous libérer. Et je me dis que ce sera même une clé qui va nous séparer des mauvaises relations, disons même toxiques, que nous avons avec certains leaders religieux dans les églises. Et on saura capable d'être libre, de donner librement selon ce que notre cœur dispose.
Un artiste ivoirien a dit qu'il n'aime pas l'argent, mais depuis qu'il en a, il n'a plus de problème. Donc, tout le monde veut avoir les moyens pour régler ses problèmes, n'est-ce pas Nathalie, en quelques secondes?
Non, l'argent règle certains problèmes, mais ne règle pas tous les problèmes. Et le problème que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on a beaucoup d'argent, on a un autre souci, celui de gérer l'argent et de vouloir le garder. Parce qu'on s'est souvent identifié au fait que si on a de l'argent, on va être hors d'atteinte, alors que ça n'a rien à voir.
Et les économistes disent que c'est un besoin infini. Quand on en a, on veut toujours...
Exactement. C'est pour ça que notre cœur qui est insatiable ne peut être comblé que par Dieu. C'est pour ça que l'argent est un excellent serviteur, mais c'est un horrible maître. C'est pour ça que les gens qui veulent faire la promotion de l'argent dans les églises et qui attirent les personnes parce qu'ils sont pauvres, c'est vraiment une certaine arnaque, entre guillemets, spirituelle.
Merci Nathalie. Le concept de la prospérité suscite donc un débat continu au sein de la communauté religieuse et au-delà, certains considérant ses enseignements comme une source d'inspiration, tandis que d'autres la critiquent pour son accent excessif sur la richesse matérielle et ses pratiques financières controversées. Merci à vous tous qui avez suivi le dialogue des religions. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Éric Manilakis a été avec vous. Joselle Morissin assure la mise en onde. Excellente soirée à vous tous et à très bientôt.